Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici-et-maintenant.com sur internet pour nous voir et nous entendre 24h sur 24. Alexandre avec vous et notre invité est Sébastien Arsac, porte-parole de L214. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, je suis ravi de te recevoir, ça fait bien longtemps que nous n'avons pas parlé ensemble des actions menées par L214. Le combat de L214, c'est de lutter contre la maltraitance animale. Et ce qu'on peut dire, c'est quand même que vous êtes fait un nom et vous êtes incontournable maintenant.
Merci. Je sais pas, je me rends pas compte, mais on essaie de faire notre travail et je pense qu'on fait en fait très peu par rapport à l'ampleur du problème, en tout cas en France.
Comment fait-on pour lutter contre la maltraitance animale aujourd'hui en France?
Nous, on est plus concentré sur les animaux d'élevage, parce qu'on... quand même sur ce domaine-là où il y a le plus d'animaux qui sont concernés par la maltraitance animale. Hein, on parle de 1 milliard d'animaux terrestres chaque année en France qui finissent dans les abattoirs et des dizaines voire centaines de milliards de poissons. Donc comment on fait pour lutter contre la maltraitance? On essaye en premier lieu de témoigner des conditions qui sont faites aux animaux dans les élevages, dans les transports et dans les abattoirs. Et puis, fort de ces témoignages ou de cette expérience sur le terrain, on essaie de mener des campagnes de sensibilisation, autant vers les consommateurs que vers les grandes enseignes de distribution, par exemple, qui ont leur rôle aussi à jouer pour faire évoluer, par exemple, les réglementations au niveau des filières ou les pratiques d'élevage, on va dire. Et puis, un troisième levier, on va dire, c'est la réglementation, essayer de pousser pour que la réglementation prenne mieux en compte la sensibilité, enfin les animaux et les conditions dans lesquelles on les élève, on les transporte et on les met à mort dans les abattoirs.
Sébastien, la réglementation c'est important, mais le plus important c'est le public, c'est lui qui consomme, donc c'est lui qui choisit si on continue ou pas à vendre un animal mort.
Oui, effectivement, enfin c'est un peu le donneur d'ordre, on va dire, c'est lui qui est au bout de la chaîne en tout cas. Sauf qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent pervertir en fait le choix des consommateurs individuellement, parce que quand on voit très bien en fait dans nos actions de rue ou quand on fait des sondages d'opinion ou sur des eurobaromètres au niveau de l'Union européenne que les gens sont très sensibles à la question animale. Aujourd'hui, si vous commencez à taper un chien au milieu de la rue, vous allez avoir plein de gens qui vont protester et c'est tant mieux. Mais il y a quand même un grand écart entre cette sensibilité à la question animale et puis ce qui se passe derrière les murs des élevages, par exemple. Et il y a quelque chose qui vient un peu pervertir ça là-dedans, c'est tout ce qui est marketing, tout ce qui est pouvoir lobby des entreprises et de l'agroalimentaire, qui dépense énormément d'argent chaque année pour essayer d'éloigner ou de mettre à distance l'animal et le produit qui se retrouve dans l'assiette.
Les Français différenciation entre les animaux d'élevage, ceux qu'il y a dans leurs assiettes, et les animaux de compagnie. Tu veux dire qu'il y a une rupture intellectuelle à ce niveau-là?
C'est pas forcément ça, parce que les gens sont aussi sensibles aux animaux d'élevage quand on fait les sondages, etc. C'est que il y a une distance qui est prise entre les animaux qui se retrouvent, enfin les qui se retrouvent dans nos assiettes, et puis prendre conscience que ce sont des animaux, savoir exactement ce qui leur est arrivé, etc. Il y a une psychologiquement, il y a une barrière qui se met. C'est pas tellement que le public ou les consommateurs n'a pas de considération pour les animaux d'élevage. En général, il y a une vraie sensibilité à ce moment-là. Sauf qu'il y a une méconnaissance de la situation. Et puis, il y a aussi des représentations qui sont construites par l'agroalimentaire pour faire penser que tout se passe bien. L'agroalimentaire est relayé par les politiques en général. Quand on voit le pouvoir de syndicats comme la FNSEA aujourd'hui en France, on se rend compte que le politique et le pouvoir aujourd'hui sont plutôt du côté du profit des éleveurs, de l'agriculture. Et le problème, il est surtout là, en fait. C'est cette opacité qu'il y a autour des filières d'élevage.
Le travail, c'est donc de sensibiliser aussi les enfants au fait que ce qu'on trouve en supermarché, parce que pour les parents, c'est peut-être un petit peu tard, mais que ce qu'il y a au supermarché, c'était avant des animaux vivants.
Oui, il est vraiment jamais trop tard. En fait, il y a des gens qui...
Il y a un âge où tu le sais. Il y a un âge où, j'imagine, à la trentaine, tu sais bien que les animaux étaient vivants auparavant, non?
Oui, mais le savoir intellectuellement et puis le percevoir, enfin, c'est des mécanismes psychologiques qui sont tout de même pas évidents. Il y a plein de choses. Enfin, il n'y a pas que la question animale. Il y a aussi quand on se rend compte, la production de café, par exemple, si on va dans le pays et qu'on voit exactement comment ça se produit, peut-être qu'après on décide de prendre du café commerce équitable. Je le dis parce que j'ai un ami qui a fait un voyage comme ça et qui depuis ne prend plus que du café commerce équitable parce qu'il a vu de ses propres yeux ce que ça représentait au niveau social, etc. Donc je pense qu'il y a quand même le fait de le savoir comme ça, et puis on oublie assez rapidement aussi qu'on se retrouve à faire des courses, on va plutôt vers la facilité, vers ce qui est facile d'accès, et c'est pour ça qu'on se retrouve à consommer par exemple énormément d'œufs de batterie en France, alors que les gens sont absolument contre à une très écrasante majorité. Mais c'est vrai que les enfants, on voit aussi régulièrement on reçoit des témoignages, on voit dans les manifestations où des emails, etc., sont effectivement souvent sensibles à cette question-là, et pour eux c'est une question assez évidente. Il n'y a pas encore le poids, effectivement, ce poids des habitudes, c'est ce qui est comme un verrou qui est difficile à faire tomber, c'est sûr.
Et en parlant des enfants, juste une anecdote, hein, on en parlait tous les deux avant l'antenne, cette vidéo qui a buzzé énormément sur Internet, avec ce petit enfant qui demande pourquoi est-ce qu'on mange des animaux, il trouve pas ça normal.
Voilà, tout à fait. Avec ce qui est remarquable dans cette vidéo, c'est effectivement, enfin, la réaction de cet enfant qu'on voit souvent. Ces animaux, c'est quoi
Il demande où est la tête, si je ne me trompe pas. Il demande où est la tête du poisson.
Voilà, c'est une pieuvre qui mange. Ouais, un octopus. Et voilà. Mais ce qui est remarquable aussi dans cette vidéo, c'est la réaction de la maman qui l'écoute, qui prend au sérieux ses remarques, qui cherche à répondre à ses questions et qui se retrouve finalement bien embarrassée devant, parce qu'elle n'a pas grand chose à répondre à ça, quoi. L'enfant, il voulait bien que la tête reste accrochée et qu'on laisse vivre cette pieuvre dans l'eau, voilà. Et donc c'est difficile après de justifier la consommation d'animaux quand il n'y a plus vraiment de nécessité nutritionnelle, on va dire.
Tout à fait, à part pour une question de goût, effectivement, c'est difficile à justifier. Et ouais. D'ailleurs, dans cette vidéo, si je ne me trompe pas, la mère, à la fin, verse sa larme parce qu'elle se sent un peu ridicule par rapport aux remarques de son enfant.
Ouais. Il y a aussi, je rebondis là-dessus, un livre qu'on a trouvé absolument remarquable, justement à destination des enfants, qui s'appelle « Respecter les animaux à petits pas », qui est écrit par Florence Pinault et qui est un livre qu'on conseille vraiment, qui est paru chez Actes Junior là, en 2013 et qui est un très bon livre pour aborder la question des animaux. Alors tout y passe, la chasse, la fourrure, les élevages, etc. Donc je vous le conseille. Respecter les animaux à petits pas pour pouvoir discuter de ces questions-là avec les enfants.
Aux éditions donc Actes Sud Junior, c'est ça ?
Voilà, Actes Sud Junior. Ouais, c'est assez rare. En fait, il y a tellement peu de livres en français sur ce sujet-là que je pense que c'est un livre vraiment à remarquer, à faire passer.
Actes Sud a toujours une politique à part côté édition.
Ouais.
Alors Sébastien, je t'ai joint aujourd'hui pour parler entre autres du travail. Justement, d'investigation réalisée par L214, on en parlait au début, tu parlais un peu de ce qu'il fallait faire en France. Il y a des vidéos que vous tournez, il y a des vidéos que l'on vous envoie. Et là, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'est un jugement qui est tombé aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de diffuser des images que l'on vous a envoyées, des images concernant des élevages industriels de poules pondeuses. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation ?
Voilà, effectivement, alors ça concerne deux élevages industriels de poules pondeuses en batterie. Donc pour avoir une petite idée, c'est des deux élevages, donc un qui détient 111 000 poules pondeuses et un autre 200 000 poules pondeuses. Donc on est là dans des gros élevages en batterie avec donc des poules pondeuses qui sont entassées dans des cages avec pour espace de vie une feuille à 4 à peu près. Il y a 8 empilements de cages, des travées qui sont des bâtiments qui font 120 mètres de long à peu près, donc voilà à peu près pour la dimension de ces élevages. Et on a effectivement reçu des images de deux élevages, donc un dans l'Ain en Saône-et-Loire. Et sur ces images, on peut voir les conditions d'élevage des poules pondeuses et notamment des animaux qui sont en très mauvais état, très délabrés, pas mal de poules pondeuses qui n'ont plus une seule plume sur le sur le sur le corps, etc. Et plus, cerise sur le gâteau, des violations de la réglementation, puisque depuis le 1er janvier 2012, il y a un certain nombre d'équipements qui doivent être à disposition des animaux dans les cages. Et dans ces deux élevages-là, il y a un certain nombre de choses qui n'y sont pas, notamment les nids artificiels, hein, qui sont normalement obligatoires depuis le 1er janvier 2012, ne sont pas conformes à la réglementation. Il doit y avoir la litière pour le picotage et le grattage, qui sont un élément très important de la directive, qui ne sont pas installés dans ces cages. Mais effectivement, on a reçu ces images, et quand on a reçu ces images, on a tenu à informer l'éleveur, l'exploitant, les services vétérinaires de ces informations et de leur demander une mise aux normes la plus rapide possible. Et pour toute réponse, on a eu effectivement l'exploitant qui nous a assigné en référé en urgence pour nous interdire de diffuser ces images. Et hélas, la justice a décidé effectivement de nous interdire la diffusion des images, considérant que ces images avaient été prises sans l'autorisation du propriétaire de l'élevage. Mmh. On faisait donc des images illicites et nous interdisait donc d'utiliser avec des astreintes de 5000 euros par diffusion si on s'amusait à les diffuser sur les sites internet.
Mais alors donc, dans ce cas-là, Sébastien, le propriétaire de ces élevages, il était présent au procès, bien sûr.
Il était représenté, en tout cas.
Il était représenté, pardon. Ce qui veut donc dire qu'on sait qui est la personne qui est derrière cette maltraitance animale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de là, on lance une action en justice contre lui, on appelle les services sanitaires. Comment ça se passe ?
Bah, effectivement, nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. Quand on a reçu les images, on n'est pas parti bille en tête à vouloir communiquer, alerter la presse, publier les images sur Internet. On a voulu suivre une procédure, on va dire, qui laisse sa chance, on va dire, à l'éleveur, qui laisse, parce que nous, on n'a aucune habilité, on n'est pas habilité de toute façon à contrôler un élevage, ni à sanctionner un élevage, etc. Donc on s'est aussi retourné vers les services vétérinaires, donc on a fait les choses dans l'ordre, on a envoyé des courriers aux services vétérinaires et à l'exploitant. Et donc l'exploitant a réagi très vite en diffusant un référé. Donc aujourd'hui ces images sont là dans les tiroirs de l'association, mais on peut pas vous les montrer, on peut pas les montrer au public, ces images. Donc bon, bien sûr, nous on va faire appel de cette décision et on a aussi averti les supermarchés qui vendent ces œufs-là, et on espère pour le moment. On espère dans un premier temps, en tout cas, que ces acteurs-là, les services vétérinaires et les supermarchés, vont prendre leurs responsabilités auprès de cet élevage. Mais il se trouve que nous, on est quelque part en danger, menacé à tout moment de payer de forts préjudices, parce qu'on a simplement fait notre travail d'association de protection animale, qui était de diffuser ces images.
C'est fréquent, ce genre d'élevage, en France ?
C'est très fréquent, oui. Alors si on regarde pour les élevages de poules pondeuses en batterie, il y a eu récemment la Commission européenne qui a mené une inspection au niveau des élevages en France et qui a effectivement repéré que la plupart des élevages de poules pondeuses en France ne respectaient pas l'intégralité de la directive 2012. Voilà, les autorités françaises ont même répondu que c'est effectivement le cas, mais que pour raisons sanitaires, il y a un certain nombre d'équipements à l'intérieur des cages qui étaient difficiles à installer, qu'on allait faire une étude pour voir ce qui serait mieux, s'il serait mieux de modifier un petit peu ces équipements, etc. Donc ouvertement, la France a reconnu ne pas être en conformité avec cette directive. Et là, donc, on parle que des élevages de poules pondeuses, parce qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de voir ce qui se passe dans les élevages, on trouve toujours des éléments de la réglementation qui ne sont pas respectés.
Pour en finir avec les poules pondeuses et les œufs, vous avez mené différentes campagnes par rapport aux œufs d'élevage en plein air. Est-ce que les grandes surfaces vous suivent de plus en plus ? Est-ce que votre campagne auprès de Monoprix a avancé ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Et est-ce que vous avez vérifié effectivement si le groupe Accor, je crois, avec Novotel, avait continué sa démarche d'œufs d'élevage en plein air ?
Alors, au niveau des supermarchés, trois points. D'une part, par rapport à donc ces images-là qui nous sont censurées, on avait donc averti notamment Casino, qui diffusait donc ses œufs, qui vendait les œufs de cet élevage et qui a Après s'être renseigné auprès des services vétérinaires qui leur ont confirmé les non-conformités, ont décidé de stopper les approvisionnements auprès de l'élevage. Donc ça, c'est une réaction qu'on salue absolument, une réactivité. En moins d'une semaine, Casino a été capable de prendre cette décision-là. Pas de nouvelles pour les autres enseignes qui sont Carrefour, Super U et Monoprix via la marque Matine qui vend les œufs batteries de ces élevages qui ne sont pas conformes. Donc on va les relancer et on espère qu'ils vont réagir aussi. Sinon, concernant la décision de Accor sur les hôtels Novotel de ne pas utiliser de batteries pour les petits déjeuners, c'est une décision qui est effectivement maintenue pour le moment. Et les petits déjeuners chez Accor se font avec les œufs plein air. Et donc, la troisième chose, c'est donc quand même, Monoprix a déjà fait un petit pas sur sa marque distributeur, puisque comme ça a déjà été abordé sur cette antenne, a décidé de renoncer aux œufs de batterie pour sa marque distributeur. Mais nous continuons, notre campagne devant les Monoprix, les magasins Monoprix, pour demander que tous les œufs de batterie soient retirés des étals de Monoprix, puisque la décision concernait que leurs marques propres, leurs marques Monoprix. Et effectivement, on voit par exemple la marque Matine, Mazdoge, de nos villages, qui sont des œufs de batterie, qui continuent à être vendus dans les Monoprix.
Très bien, voilà pour les œufs et surtout pour les poules pondeuses. Sébastien Arsac, il y a un autre sujet que nous allons aborder. C'est intéressant, hein, parce qu'on parlait des poules pondeuses, et pour les poules pondeuses, il y a moyen de trouver des œufs d'élevage en plein air, il y a moyen de trouver des œufs d'élevage, on va dire, d'entre-deux, puis il y a l'élevage de batterie aussi. Là, il y a un autre type d'élevage en France où, finalement, on ne peut pas passer à côté l'élevage en batterie, c'est les lapins. Comment est-ce qu'on élève les lapins en France? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, les lapins, ça concerne à peu près 40 millions de lapins chaque année qui sont tués dans les abattoirs, donc c'est les abattages contrôlés, on va dire. Et en France, l'élevage des lapins, donc l'élevage cunicole, est un élevage à plus de 99% élevage intensif, c'est-à-dire dans des gros bâtiments, élevage dans des cages sur un sol grillagé, avec des cages dans lesquelles les lapins ne peuvent pas se mettre debout sur leurs pattes, se relever, etc. Restent toute leur vie enfermés dans un bâtiment sans jamais avoir accès à l'extérieur. Pour avoir une idée des densités, c'est à peu près comme les poules pondeuses. Un lapin, il a en moyenne une feuille à 4 comme espace de vie à l'intérieur de ses cages. Et effectivement, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui sur l'élevage des lapins. Et donc on se retrouve toute la viande de lapin qu'on peut retrouver en boucherie ou en supermarché aujourd'hui provient automatiquement d'élevage intensif. C'est en plus des animaux qui sont assez fragiles et qui dans ces conditions-là développent des maladies avec des mortalités qui sont de l'ordre de 20-25% de mortalité à l'intérieur de ces élevages-là. Donc une des élevages qui sont fortement médicalisés avec une utilisation assez massive d'antibiotiques. Il faut savoir que l'élevage de lapin, c'est l'élevage qui consomme le plus, si on ramène la quantité de pois vifs, d'antibiotiques parmi tous les autres élevages.
Mais il n'y a pas de réglementation en France par rapport au lapin ?
Et non, en plus, il n'y a pas de réglementation spécifique à l'élevage des lapins. Il y a une réglementation un peu large sur les animaux d'élevage, qu'on ne doit pas maltraiter, qu'on doit héberger dans des conditions qui sont conformes à leurs besoins biologiques, ce qui est très discutable dans les faits. Mais il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite comme on peut retrouver sur les élevages de poules pondeuses. Bon, là, on a un certain nombre de centimètres carrés qui doivent être attribués à chaque poule pondeuse, un certain nombre d'équipements à l'intérieur des cages, parce que pour les lapins, il n'y a pas d'équivalent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si un éleveur veut mettre 3 lapins sur une feuille à 4, c'est juste la taille des lapins qui va le limiter, mais pas la réglementation. Et si quelqu'un va dans cet élevage ou un service vétérinaire va dans cet élevage, ils ne pourront pas s'appuyer sur une réglementation pour verbaliser ou lui demander de faire autrement. Donc là, c'est effectivement un sujet qui est pour nous, l'obtention d'une réglementation qui est une priorité. Et aussi faire bien prendre conscience aux consommateurs que la viande de lapin, il n'y a pas d'alternative.
Il y a des images terribles d'élevage de lapin qu'on peut retrouver.
Effectivement, nous, on a beaucoup enquêté sur les élevages de lapins. On a diffusé là, il y a quelques mois des images qui datent de 2012-2013, donc toutes récentes, prises en France, où on voit effectivement ces lapins entassés. On voit comme il y a beaucoup de mortalité, on voit assez régulièrement des lapins qui sont morts à l'intérieur des cages, des poubelles qui sont remplies de cadavres, et puis beaucoup d'abcès, de différentes maladies. Il faut savoir que les lapins, en plus, les mères en fait restent dans les cages, peuvent rester un an ou un peu plus dans les cages, et sont inséminés artificiellement, enchaînent les mises bas, les portées, etc. Voilà, donc c'est un élevage vraiment très industrialisé et qui est absolument incompatible avec une considération même minime de la question animale. Quoi.
Effectivement, c'est assez choquant, on en avait déjà parlé à l'antenne, mais c'est bien de le remettre en avant. Quand vous faites du lapin, sachez que c'est de l'élevage. C'est l'élevage en batterie. Vous avez remis, d'ailleurs, il y a une photo sur votre site internet de Brigitte Gauthier, de la remise de 40 000 signatures demandant l'interdiction des élevages de lapins en cage. Vous avez remis ça aux représentants de la Commission européenne. Ça sert à quelque chose ?
Et là, j'aimerais pouvoir dire oui, mais ça sert à peu de choses. Autant il y a des sujets où ponctuellement on peut arriver, qu'il s'agit par exemple d'un élevage qui est absolument hors norme, jusqu'à ponctuellement quelque chose qui ne coûte pas trop économiquement, on va dire. On peut obtenir des résultats. Là, notre pétition, bien sûr, a été une pétition large sur l'interdiction de l'élevage en batterie des lapins. On nous a expliqué que c'était pas encore à l'ordre du jour au niveau de la Commission européenne, ni même l'étude en fait d'une réglementation pour le moment. Ça a quand même son intérêt, la pétition, parce que ça permet de mettre un peu de pression, de remettre le dossier en haut de la pile de la Commission européenne, et puis ça a un intérêt au moment de la signature de sensibiliser les personnes sur les tables de presse, sur les salons les personnes auxquelles on va proposer cette signature pour leur expliquer ce que c'est que l'élevage de lapins. Donc les pétitions, ça dépend les sujets, ça dépend les contextes. Sur l'élevage des lapins, il ne faut pas espérer avoir des actes un peu révolutionnaires de la part de la Commission, dans la mesure où ça remet en cause des intérêts économiques qui sont très forts. Donc là, on est quand même sur des campagnes, pour notre part, qui vont se concentrer sur les consommateurs, pour les inciter à renoncer à cette viande-là.
Un mot, Sébastien, du foie gras. Le foie gras qui, aux États-Unis, c'est à New York ou en Californie, je ne me rappelle plus.
Californie,
c'est en Californie. Il est interdit, le foie gras. Alors, il y a une parade qui a été trouvée, c'est-à-dire qu'on fait payer le pain, mais on offre le foie gras pour qu'il soit goûté, donc il n'est pas payé. C'est assez intéressant, je dois dire que c'est assez malin quand même. Mais quand même, le foie gras est interdit en Californie. J'ai cru comprendre qu'en Israël, ça devrait être interdit bientôt aussi.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, juste pour revenir en Californie, effectivement, on a pu voir, notamment au JT, un reportage comme ça, où les restaurateurs passaient un peu pour des malins en vendant leurs tartines un peu plus chères, etc. Mais on s'aperçoit que, dans les faits, ça les enquiquine bien, puisque la filière veut absolument essayer de faire tomber cette loi. Donc, c'est quand même doit y avoir quelques conséquences, quelque part, hein, concrètes. Donc voilà, je pense que c'est un peu une com, un peu un gimmick.
C'est vrai que c'était une com. J'ai vu le reportage dont tu parles.
Ouais.
Mais j'avoue que j'ai trouvé que le fait de biaiser la loi comme ça était quand même très malin de la part de la filière.
Après, il y a des associations localement qui essayent de faire leur travail. Il y a déjà eu des restaurateurs qui ont été condamnés aussi, ce qui n'était pas expliqué dans le reportage. En tout cas, la Californie interdit l'importation de foie gras. Donc c'était vraiment le premier État au monde à interdire l'importation même, hein, parce qu'il y a énormément de pays qui ont interdit la production, même en Europe. Hein, la plupart des pays en Europe ont déjà interdit la production. Mais là, interdire l'importation, ce qui est une mesure tout à fait cohérente, hein, puisque si on décide que ça dépasse les limites en termes de protection animale, c'est tout à fait cohérent d'en interdire l'importation au niveau d'un État. Après, il y a des règles économiques qui font que c'est toujours délicat et que les États sont un petit peu frileux à adopter ce genre de loi, notamment au niveau du commerce international, mais c'est tout à fait possible, la Californie l'a démontré. Et effectivement, en Israël, qui a déjà interdit par une loi en 2003 de la production de foie gras, en Israël, il y a une loi qui est proposée et qui a une grande chance d'être adoptée pour interdire la vente de foie gras par les restaurateurs et par les grandes surfaces. Il sera encore juste possible, après l'adoption de cette loi, d'importer du foie gras pour une consommation propre. Voilà, un individu qui importe du foie gras.
Consommation personnelle. Il va y avoir un nombre de grammes précis qu'on peut avoir de foie gras sur soi.
Peut-être pas, mais en tout cas, le fait que les supermarchés et les restaurants ne pourront plus proposer de foie gras sur leur carte, ça va à peu près réduire à zéro l'importation de foie gras en Israël dans les faits. Donc c'est vraiment pour nous une mesure symbolique très très forte, surtout que l'Israël était, au moment de l'interdiction de la production de foie gras en 2003, était quatrième producteur mondial de foie gras, donc c'était pas rien comme décision. Et l'autre chose, c'est que la production de foie gras a été emmenée en Europe, dans les pays de l'Est et en France par la diaspora juive au départ, hein, qui est une pratique donc qui vient de la diaspora juive, et donc c'était d'autant plus impressionnant et symbolique que Israël prenne une telle décision. Voilà, surtout que les débats qui ont été menés à la Knesset pour cette loi sont vraiment de haute volée autour de l'éthique animale, de l'antispécisme, et s'appuient notamment essentiellement sur un rapport de l'Union européenne qui concluait au caractère préjudiciable de la production de foie gras pour les animaux. Donc c'est vraiment un rapport européen qui a amené Israël à interdire la production de foie gras, donc c'est vraiment remarquable.
J'imagine effectivement que c'est une excellente nouvelle pour vous, quand on sait qu'avant L214, il y avait Stop Gavage, et que vous n'avez pas abandonné évidemment l'un des deux combats.
Voilà, Stop Gavage était notre première campagne, et effectivement quand on a voulu élargir nos activités à l'ensemble des produits animaux, le lait, la viande, les œufs, etc., on n'a effectivement pas laissé tomber le foie gras, et le Stop Gavage et la campagne anti-foie gras de L214 aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une campagne aussi qui nous tient à cœur, c'est un peu le premier secteur dans lequel on a fait des enquêtes, c'était sur le foie gras. Et moi je me souviens très bien en 2004, la première fois où je suis rentré dans une salle de gavage, où j'ai vu 800 canards enfermés dans des cages de la taille d'une boîte à chaussures, avec juste le cou qui dépasse. Au moment de gaver, je pense que cette image sera gravée un long moment. Jusqu'à ma mort, je pense, c'est des images absolument impressionnantes. Je crois qu'on n'avait encore jamais vu ça en France. Il y avait très peu d'images qui circulaient. Et donc, aujourd'hui, même si la consommation en France est encore très, hélas, très forte, c'est une campagne qui nous tient à cœur. Et ces nouvelles internationales sont des éléments qui nous font penser que... qu'effectivement on a raison, et que même à l'échelle d'un État, on peut considérer que le foie gras est une cruauté sur les animaux.
Sébastien, c'est une question que je ne t'ai jamais posée, mais c'est la troisième fois que des images sont interdites pour vous, hein, je crois. C'est la troisième fois, vous menez énormément d'actions en justice. Est-ce que, pour tous ceux qui sont sensibles à votre combat, il y a une possibilité de vous aider ou pas?
Ah bah absolument. Alors il y a plusieurs choses à faire, donc il faut... comme nous sommes une ONG, une association de loi 1901 à but non lucratif, nos ressources pour aller faire les enquêtes et puis les campagnes publiques, etc., reposent que sur la solidarité et l'implication des sympathisants. Donc il est tout à fait possible de faire un don ou d'adhérer à l'association, et c'est même très bienvenu, et sans ça on pourrait absolument faire aucun travail de témoignage. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, sachant qu'on n'a aucun intérêt personnel dans la vente de légumes, de fruits.
Je n'en doute pas un seul instant.
Etc.
J'en doute pas.
Voilà, contrairement aux filières qui sont contre nous et qui, eux, ont énormément de moyens pour communiquer, etc. Donc on est une ONG, donc il y a moyen d'adhérer et de soutenir. Et puis il y a possibilité de s'abonner à notre lettre d'information, de nous suivre sur notre page Facebook et de diffuser nos images, de diffuser nos informations, de relayer, etc. Et puis pour les gens qui sont plus motivés, on a un réseau de militants et on propose des campagnes. Et par exemple, cette campagne sur Monoprix, en ce moment, des groupes un peu partout en France continuent à diffuser des tracts aux clients des enseignes Monoprix. À la rentrée, on va cibler une autre enseigne, etc. Donc, vous inscrire à la lettre d'info, nous suivre sur, sur la page Facebook de L214. C'est aussi l'occasion de pouvoir participer à des actions concrètes sur le terrain, des manifestations, etc., au-delà de diffuser les images et l'information.
Bon, je vais pas le faire pour toi, mais alors il y a L214.com sur Internet, c'est le nom de votre site Internet. Pour Facebook, c'est facile, L214. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas Facebook, ou est-ce qu'il y a un email à donner ou une adresse?
Bien sûr, alors pour l'email, c'est tout simple, c'est contact@l214.com. Donc on ne peut pas faire plus simple, contact@l214.com. Pour le numéro de téléphone, 09 50 36 42 44. 09 50 36 42 44. Et puis un numéro de portable, 06 20 03 32 66, par exemple. Et vous pouvez retrouver ces numéros si vous avez Internet facilement depuis l'onglet Contact. Donc c'est en haut à droite du site, sur toutes les pages et en page d'accueil notamment.
Alors L214, L la lettre, et 214 en chiffres, .com.
Voilà.
Pour terminer, Sébastien, que dirais-tu de la situation de la France actuellement par rapport aux autres pays? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance assez vite? Est-ce qu'on stagne? Est-ce que tu as l'impression que les autorités ou que la régulation va dans le bon sens? Où est-ce qu'on en est actuellement en France?
Au niveau, on va dire,
au niveau de l'élevage, au niveau de l'élevage des animaux de consommation, excuse-moi pour cela, mais les animaux de consommation, est-ce qu'on progresse?
On progresse difficilement parce que le pouvoir politique est vraiment travaille main dans la main avec les filières d'élevage. Dernier exemple en date, interdiction par l'Union européenne des subventions pour l'exportation des poulets vers des subventions, hein, donc c'est plusieurs centaines d'euros à la tonne qui sont donnés à des entreprises comme Doux, enfin des grosses entreprises agroalimentaires. La Commission européenne décide de supprimer ces subventions, et que fait la France? Elle va faire pression sur l'Union européenne pour que l'Union européenne revienne sur cette mesure. Voilà, sachant que c'est des subventions qui viennent à l'élevage intensif, parce que les poulets d'exportation, c'est l'élevage intensif. Sur le foie gras, le président François Hollande ou le ministère de l'Agriculture, le FOL, ou le ministre à l'agroalimentaire, sont de véritables VRP pour le foie gras, on peut le dire, se mobilisent absolument. Là, il y a un voyage en Californie qui est prévu pour aller faire la promotion du foie gras, etc. Donc en fait, nos plus gros problèmes aujourd'hui, c'est la politique, au niveau gouvernemental, il n'y a aucune volonté d'aller en avant sur ce thème-là. Après, heureusement qu'il y a l'Europe, mais en France, malgré la mobilisation militante qui, elle, est de plus en plus forte, et malgré, on va dire, la sensibilité du consommateur, on est encore, dans une situation où il est difficile d'obtenir des victoires. Si on se tourne vers les pays, notamment du nord de l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, et surtout l'Autriche, les pays anglo-saxons, on va dire, l'Autriche, qui est le pays, je pense, le plus avancé au niveau réglementation, au niveau mondial, qui a interdit l'élevage en batterie des poules pondeuses, qui a interdit l'élevage des lapins, puisque sur ces deux sujets qu'on a évoqués, qui a interdit les animaux dans les cirques, etc. La Belgique avance aussi très très rapidement. Elle a récemment interdit les animaux pour les sauvages dans les cirques, etc. Donc la France est quand même un peu à la traîne, hein, même un peu en queue de peloton, on va dire. Même pour ce qui est des contrôles, c'est le pays où il y a le taux de contrôle des autorités qui est le plus faible de toute l'Union européenne. Donc aujourd'hui en France, on est dans une situation qui est celle-ci, qui est vraiment pas évidente. Après, au niveau européen, on peut dire que l'Europe est quand même avancée par rapport à plein d'autres pays sur la réglementation bien-être animal. Si on compare avec les États-Unis ou le Canada, il n'y a quasiment aucune loi de réglementation, de protection des animaux dans les élevages. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc il y a encore pire, on va dire, mais voilà. Si aujourd'hui il y a des avancées en France, elles viennent de l'Union européenne et des supermarchés qui prennent parfois leurs responsabilités.
Tout à fait, hein, on l'a dit, hein, c'est bien aussi de faire la part des choses, on l'a dit, il y a des grandes surfaces, là tu nous parlais de Casino qui a retiré des œufs, il y a aussi Monoprix qui a fait un pas, même si c'est pas assez, mais puis il y a Accor, enfin... Il y a quand même des moments où les choses bougent et il faut le mettre en avant plutôt que d'être en conflit en permanence. Et effectivement, tu le dis bien, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Peut-être parce que ceux qui sont aux responsabilités justement maintenant sont des personnes un peu plus sensibles à la maltraitance animale.
Il n'y a pas de raison. Comme la population est sensible à la protection animale, et ben dans la population, il y a des personnes qui ont des postes clés. Mais effectivement, c'est comme ça que ça avance aussi.
Sébastien, y a-t-il des actions prévues en compagnie ou avec l'éducation nationale pour l'année qui vient, pour justement expliquer aux enfants ce qu'ils ont dans leurs assiettes et que les animaux ne poussent pas sous polystyrène?
Hélas, ponctuellement, il y a des interventions dans les écoles. On a eu l'occasion d'en faire quelques-unes, mais très très peu par rapport au travail que ça représente et au nombre d'établissements scolaires. Mais sur ce terrain-là, on peut dire que c'est surtout la filière qui est présente, soit par l'intermédiaire du CIV, du Centre d'information des viandes, qui est la filière viande, et par l'intermédiaire notamment des fédérations de chasse, hein, qui sont là pour faire l'éducation à l'environnement dans les écoles. Donc ça, c'est encore un autre problème. Il y a aujourd'hui, à notre connaissance, quasiment aucune association qui fait ce travail. Donc hélas, non, on va dire, pour être clair. Hélas, non, il n'y a pas d'actions qui sont entreprises à envergure suffisante et une grande envergure sur ce sujet-là. Donc des enseignants qui sont motivés individuellement par-ci, par-là, et qui font leur travail. Mais c'est un chantier qui reste à mener, une bataille qui reste à mener, totalement.
Sébastien Arsac, merci beaucoup. Merci aussi à Brigitte qu'on n'a pas entendu aujourd'hui. Tous les deux, vous relayez à l'antenne depuis des années pour nous faire partager vos actions, votre cause. L214, je le rappelle, sur internet, c'est l214.com. Pour avoir des informations, pour aider, pour participer, c'est vous qui choisissez selon ce que vous pouvez faire. Un mot à rajouter, Sébastien ?
Non, aucun mot, à part de remercier Radio Ici Maintenant. C'est vrai qu'on a, tu nous donnes l'occasion de nous exprimer régulièrement sur l'antenne de Radio Ici Maintenant, donc vraiment un grand merci. C'est souvent que donc on a des retours positifs de gens qui nous ont entendus sur ton antenne, sur l'antenne de Radio Ici Maintenant, donc c'est un sacré coup de pouce pour nous. Et puis j'en profite pour remercier aussi tous les sympathisants qui sont de plus en plus nombreux et qui soutiennent nos campagnes et sans lesquels on ne pourrait rien faire. Voilà.
Merci beaucoup Sébastien Arsac, merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2. À l'instant, Sébastien Arsac, porte-parole de L214. Je vous rappelle que sur internet, c'est l214.com. Alexandre, aujourd'hui avec vous.